9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Nous serons à Kinshasa dans un instant. La République démocratique du Congo, où l'Assemblée nationale autorise des poursuites contre Constant Mutamba, le ministre de la Justice, soupçonné de détournement de fonds publics, qu'il dément. Une décision qui ouvre la voie à un procès. Dans ce journal également, reportage à bord au Soudan du Sud, ville de 400 000 habitants, qui ne s'en sort pas de ces inondations. Plusieurs quartiers de la ville sont sous l'eau depuis plusieurs semaines. Nous serons aussi au Cameroun, où les stratégies s'affinent en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre. Et au Tchad, où l'Union des journalistes dénonce une grave atteinte à la liberté d'informer après que le procureur a menacé de poursuite les journalistes souhaitant enquêter sur les violences le mois dernier à Mandakao, dans le sud du pays. La loi prévoit maintenant qu'il démissionne en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a décidé hier d'autoriser des poursuites contre l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné de détournement de deniers publics dans le cadre de projets de construction d'une prison dans la ville de Kisangani. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégois.
C'est à huis clos que les députés ont tranché. Sur les 363 présents, 329 ont voté en faveur de poursuites contre les ministres de la Justice Constant Mutamba. Ces faveurs ouvrent la voie à l'ouverture d'un procès dans les tout prochains jours. Quant au ministre inculpé, il devrait démissionner comme le prévoit la loi en ces débuts de semaine. Constant Mutamba, 37 ans d'âge, est accusé d'avoir transféré 19 millions de dollars vers une société privée dans le cadre d'un contrat de gré à gré portant sur la construction d'un établissement pénitentiaire à Kisangani. Un contrat de 29 millions dont 65% venait d'être versé alors que la loi sur les marchés publics limite les acomptes à 30%. Les contrats n'avaient pas été autorisés par la première ministre. Les députés et les procureurs estiment que cette somme aurait pu être détournée si la cellule nationale du renseignement financier n'avait pas gelé les comptes bénéficiaires à temps et tiré la sonnette d'alarme. La société en question est décrite comme un fantôme sans bureau connu ni personnel et encore moins d'expertise. Les rapports votés par les députés affirment aussi que les sites devant recevoir l'ouvrage n'existaient pas. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Constant Mutamba qui a toujours nié les accusations portées contre lui du côté de ses proches. On estime que les fonds n'ayant pas été perçus par l'entreprise, on ne peut pas parler de détournement et on évoque plutôt un cas de vengeance politique. L'Assemblée nationale congolaise également saisie d'un rapport parlementaire sur la Gécamines, l'entreprise nationale minière. Sa gestion, bien souvent à distance, qui est épinglée. Ses investissements, parfois sans rapport direct avec l'activité minière, sont questionnées et les pertes en dizaines de millions d'euros sont pointées du doigt. Tous les détails sont à lire dans un article sur notre site internet rfi.fr. La RDC aussi, qu'un jeune athlète de 23 ans vient de quitter à vélo direction l'Afrique du Sud et la ville du Cap. 5000 km au total d'un projet appelé Pedals for Peace, en français des pédales pour la paix. Pour ce jeune gomatracien qui entend diffuser un message de paix et d'unité, Paul Lorgerie l'a contacté.
Déjà 2600 km parcourus. Actuellement en pause dans la capitale zambienne, Lusaka, Miguel Masaïsaï raconte s'être lancé sur la route le 17 mai.
La première étape était la traversée du Rwanda, qui m'a pris juste 10 jours.
Rwanda, Tanzanie, Zambie. Miguel égrène les noms des différentes villes et villages qu'il a traversés, parfois sous un soleil de plomb, zigzagant entre les nids de poules et les camions transporteurs de marchandises. Et parfois seul aussi, comme dans ce parc naturel en Tanzanie.
Il y a un jour où j'avais eu une crevaison en plein milieu de parc. Et heureusement que j'ai eu les matériels pour changer les pneus. Et pour moi, c'était un danger parce que là, je peux rencontrer des animaux sauvages, des mauvaises personnes. C'est aussi parmi les difficultés.
Qu'importe, Miguel, habillé de son cuissard aux couleurs de la République démocratique du Congo, diffuse sur son passage un message de paix et d'unité dans les communautés qui l'accueillent pour la nuit. Sur le réseau social Instagram, il raconte son voyage et invite les jeunes des différents pays à venir à sa rencontre.
À 55 km, avant mon entrée ici à Lusaka, j'ai vu les gens venir, donc des cyclistes m'arrêter. Ils ont dit, nous sommes venus ici pour t'escorter jusqu'à Lusaka, à la capitale. Donc, et aussi, on avait pédalé juste pour aller me chercher en route.
Une expérience que le jeune athlète, avec ses seules jambes pour pédaler, compte bien renouveler avant son arrivée au Cap, en Afrique du Sud, qu'il espère atteindre dans un mois.
Paul Lorgerie. Par ailleurs, en République démocratique du Congo, les autorités de Kinshasa comptent désormais 29 morts après les inondations qui ont touché la capitale congolaise dans la nuit de vendredi à samedi, en pleine saison sèche pourtant. Touché également la ville voisine de Brazzaville, capitale de la République du Congo, où un premier bilan avait fait état avant-hier de 3 morts. Des pluies diluviennes et des inondations qui sont devenues malheureusement le quotidien des habitants de Bor. Nous sommes au Soudan du Sud. Bor, c'est la capitale de l'état du Jonglei. Depuis plusieurs années, le Nil blanc déborde régulièrement et les digues renforcées n'y changent rien. Les eaux de pluie ne s'évacuent plus et des quartiers entiers de la ville sont sous l'eau depuis le début de la saison des pluies au mois de mai. Reportage de Florence Mieto.
Situé en contrebas de deux grosses artères de Bor, le quartier de Niguel patauge dans près d'un mètre d'eau stagnante. À l'aide de casseroles, trois frères écopent l'eau qui a envahi leur maison. Leur sœur, Atobol Kwol, 21 ans, témoigne.
Il y a eu une énorme pluie il y a 3 semaines qui a provoqué ces inondations. Ça a détruit tout ce que nous avions à l'intérieur de la maison. Nos matelas, les affaires que nous avions dans des valises et la nourriture que nous avions en stock.
D'autres femmes s'approchent. Elles ont dû quitter leur domicile et campent dans la rue. Parmi elles, Awa Kanyang, une femme très frêle de 60 ans, vit sous une moustiquaire tendue entre deux bâtons.
Le gouvernement dit qu'il va nous venir en aide. Mais nous sommes dans l'eau depuis un mois maintenant et ils ne sont pas venus. Nous dormons dehors et nous nous faisons piquer par les moustiques. Nous n'avons pas de bâches en plastique pour construire des abris. Que devons-nous faire? Quitter la ville? Si la pluie se met à battre, je risque de mourir car je n'ai pas assez de force, pas de nourriture et je n'ai nulle part où aller.
Les autorités locales disent manquer de moyens pour faire face. Elles se heurtent aussi à un problème épineux, l'évacuation de certaines zones résidentielles nécessaires afin d'ouvrir des canaux de drainage des eaux de pluie. Florence Mieto, Bor, RFI.
Le Soudan du Sud, qui est l'un des pays concernés par les annonces de Donald Trump le mois dernier, le président américain qui a mis en place son travel ban, interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants d'un certain nombre de pays, notamment des pays africains. Eh bien, les États-Unis, c'est une information du Washington Post, envisagent de nouvelles restrictions pour au total 25 pays du continent, la RDC, le Gabon, le Cameroun notamment, mais aussi la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les États-Unis qui mettent en cause la qualité des documents d'identité pour certains de ces pays et qui estiment pour d'autres qu'un nombre trop important de leurs ressortissants ont dépassé la date limite de leur visa. RFI 8h37 à Yaoundé, le temps des questionnements stratégiques au Cameroun à 4 mois de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. On s'interroge donc notamment dans le nord du pays après les déclarations d'Issa Tchiroma, président du parti FNSC et ministre, très critique la semaine dernière de l'action du président Paul Biya, alors que potentiellement l'autre grand parti du Nord camerounais, l'UNDP de Bello Boula, pourrait lui aussi prendre ses distances avec le chef de l'État. À Yaoundé, les explications de Polycarpe Samba.
C'est devant sa résidence de Garoua face à une foule de militants de son parti venus à sa rencontre que Issa Tchiroma, pourtant connu comme l'un des défenseurs acharnés du président Paul Biya, a dégainé sa charge. En langue locale et sur un ton véhément, il a dénoncé pêle-mêle la misère ambiante, le chômage et le manque d'opportunités pour les jeunes, tout en les incitant à tourner le dos sans le nommer à celui qui, je cite, est responsable de leur malheur depuis 40 ans. Joint par RFI, Issa Tchiroma, qui ne nie pas ses propos, explique avoir simplement exprimé le ressenti de sa base militante. Sa position est-elle toujours tenable au sein du gouvernement à cette question comme celle liée à l'éventualité de sa candidature à l'élection présidentielle? Soyez patient, vous aurez bientôt toutes les clarifications, répond Issa Tchiroma. Du côté de l'UNDP, qui est le grand allié du Nord au pouvoir RDPC, les mêmes questions sont sur la table. Les militants à la base poussent son président Bello Bouba, ministre d'État depuis 28 ans, à dénoncer son alliance avec le président Paul Biya. Maïdadi Saïdou, le secrétaire national à la communication du parti, est de cela. Pour lui, l'alliance entre le RDPC et l'UNDP a vécu et Bello Bouba doit se porter candidat à l'élection présidentielle. La question sera tranchée au cours d'une réunion du comité central de l'UNDP convoquée pour ce 28 juin. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Enfin, au Tchad, comment comprendre le dernier communiqué du procureur de la République, l'autorité judiciaire tchadienne, qui met en garde les journalistes se rendant à Mandakao, cette localité du sud du pays, théâtre d'affrontements intercommunautaires le mois dernier, qui ont vu la mort d'une 40 quarantaine de personnes. Kival, par ailleurs, en ce moment, à l'opposant Succès Masra d'être en détention provisoire pour des accusations d'incitation à la haine. Le procureur estime que les journalistes pourraient entraver le travail de la justice et se trouver eux-mêmes sous le coup de poursuites. Précision et explication avec Esdras Ndikoumana.
Pour la justice tchadienne, l'intervention des journalistes et de la société civile pourrait fausser les investigations en cours. Le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena leur a donc lancé une sévère mise en garde. Ne retournez pas à Mandakao pour mener vos propres enquêtes, Oumar Mahmat Kedelaï.
Des juges d'instruction ont été saisis et ont commencé à poser des actes dans le cadre d'une enquête préparatoire déjà ouverte par le parquet d'instance. Par conséquent, compte tenu de la sensibilité de l'affaire, toute autre démarche parallèle est susceptible de constituer un empiétement sur les fonctions judiciaires ou des usurpations des fonctions et pourrait éventuellement exposer son notaire à des poursuites judiciaires.
Réaction de l'Union des journalistes du Tchad, c'est une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'informer, dénonce le secrétaire général de l'UGT, qui assure que le procureur cherche à faire taire les journalistes, Ange Al-Hassim.
Nous sommes estomaqués par cette déclaration du procureur. Ce que le procureur exige de nous, c'est purement et simplement, c'est le retour à la censure, ce qui n'existait plus au Tchad depuis 1994. Nous ne disons pas que le décret de restriction doit être foulé aux pieds. Nous disons simplement que les journalistes ont le droit d'aller enquêter pour dire ce qui s'est passé.
Et pour un membre de la société civile tchadienne, cette interdiction cache mal, dit-il, la volonté de garder sous cloche la vérité sur Mandakao. Dans quel intérêt s'est-il interrogé sans donner de réponse?
Le Tchad où Human Rights Watch appelle à libérer avant leur procès Olivier Monodji, directeur de publication du journal Le Pays, par ailleurs l'un des correspondants de RFI, et Mahamat Saleh Ali Hissène, reporter de la chaîne Télé Tchad, tous les deux arrêtés et incarcérés depuis maintenant plus de 3 mois, accusés dans un premier temps de trahison. Le juge d'instruction a depuis requalifié les faits qui leur sont reprochés en délit d'entretien avec des agents d'une puissance étrangère. N'Djamena, il est 8h42 et vous êtes avec André Admelard pour la suite d'RFI Matin.